Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, un nouveau Clap Cinéma avec deux de nos bénévoles service civique. J'ai la joie d'accueillir Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Sylviane.
Alors Anne qui est bénévole, qui fait plein de choses au point de vue administratif. Et Laura qui a fait un stage de 3 mois à la radio et qui a eu son master humanité et industrie créative, que cela. Et qui est partie pour 9 mois de service civique avec nous. Elles sont toutes les deux volontaires. Un peu forcé, pour animer avec moi une émission donc, que nous avons intitulée très banalement Le Clap Cinéma d'Anne et Laura. Et nous vous proposerons donc chaque mois une nouvelle émission. Alors on a un peu hésité, est-ce qu'on parle d'anciens films? Qu'est-ce qu'un ancien film? Est-ce qu'on parle de films récents? Est-ce qu'on alterne? Est-ce qu'on se donne le droit aussi d'improviser parfois en fonction des coups de cœur ou des opportunités, des événements? C'est ce que je ferai à la fin en parlant d'actualité théâtre, cinéma et musique. Et je ne vous dis pas, pour maintenir la surprise, les deux films qu'ont choisi Anne et les deux films qu'a choisi Laura, nous allons les enchaîner pour votre plus grand plaisir, je l'espère. Et nous donnons tout de suite la parole à Anne.
Donc, mon premier choix s'est porté sur Jeremiah Johnson. C'est d'abord un souvenir pour moi. Je peux vous raconter qu'il était une fois une grande sœur qui avait emmené son petit frère au cinéma par protection pour lui faire plaisir. Et bien, c'est là qu'elle découvre un film magique dont le souvenir restera jusqu'à la fin de 6 jours.
Ah, c'est un film de quelle année?
Alors, 1972, et évidemment, il ne faut pas oublier que le héros, le personnage principal, en est Robert Redford.
Et le réalisateur
c'est réalisé par Sidney Pollack. Alors, Jeremiah Johnson, dans mon souvenir, en fait, c'est d'abord Robert Redford qui arpente d'immenses paysages enneigé au pied des montagnes rocheuses, qui s'apprête à traverser. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que ce côté, disons, élégiaque presque, mais qu'il y a également beaucoup de violence qui contrebalance ces impressions très, très tranquilles, très je ne sais quoi. En effet, Jeremiah Johnson a décidé de quitter les villes dont il ne supporte plus le bruit, la saleté, le désordre, pour aller refaire sa vie dans les Rocheuses. Une réplique d'ailleurs au début du film est assez mémorable. Et Jeremiah Johnson s'adresse à un commerçant chez qui il a fait une petite escale et lui demande où sont les Rocheuses. Alors la réponse du commerçant c'est « Poussez plein ouest au coucher du soleil, tournez à gauche aux Rocheuses ». Comme indication, il n'y avait pas plus précis. Ça fait partie des premiers films aussi où les Indiens sont présentés avec réalisme, si on peut dire, quand on compare en particulier avec tous les films dans lesquels John Wayne a tourné, où les Indiens sont les méchants et les cow-boys sont les gentils, en tout cas ceux qui ont le droit de tout faire, y compris de tuer un nombre illimité d'Indiens. Donc c'est une espèce de voyage initiatique, en fait. Il y a beaucoup de tristesse, voire de tragédie. Jeremiah commence par tomber sur une famille qui a été assassinée, à l'exception d'un gosse, par les Indiens. Il emmène le gosse avec lui. Il se passe tout un tas d'aventures. Et un peu plus tard, c'est sa propre famille qu'il retrouve complètement assassiné également. Et tout compte fait, il va reconstruire une maison avec le gosse qui est devenu comme son fils et un vieux trappeur qu'il a adopté également et qui lui a été très précieux dans sa découverte des Rocheuses. Voilà en quelques mots ce que je peux vous dire.
Pourquoi il vous avait tant impressionné ce film ?
Bien, il y a d'une part la beauté incroyable de Robert Redford, bien sûr.
Un bon argument.
Encore tout jeune à l'époque. Et puis toute cette ambiance, ces immensités, aussi bien dans la neige qu'au printemps ou en été. C'est absolument envoûtant, je pourrais dire. Voilà. The trail was wide and narrow. The eagle or the sparrow showed the path he was to follow.
Are you all right?
Sure. I got a fine horse under me.
A mountain man's a lonely man and he leaves a lot behind.
How's the war going? Which war?
It ought to have been different, but you oftentimes will find that story doesn't always go the way you had in mind.
If you value your hair, you will get married.
Jeremiah's story was that kind.
He was a man the Indians prayed to and cursed and tried to kill. Robert Redford as Jeremiah Johnson. Some say he's dead. Some say he never will be.
Jeremiah's story was that kind.
Alors nous venons d'écouter la bande-annonce de Jeremiah Johnson qui a tant plu à Anne qui s'en souviendra toute sa vie, comme elle nous a dit. Et c'est au tour de Laura de parler d'un film qu'elle considère ancien. Moi, je ne trouve pas si ancien que ça. Chaque âge est différent, bien sûr. Laura est toute jeune. Les Dents de la Mer de Spielberg, 1975.
Donc Les Dents de la Mer, ça a été réalisé par Steven Spielberg en 1975. Et ce qui est magistral, c'est qu'il avait seulement 29 ans quand il a réalisé ce chef-d'œuvre. Donc, bon, Les Dents de la Mer, ça doit parler à peu près tout le monde. C'est l'histoire d'une... Enfin, c'est l'été, c'est des gens qui vont dans une station balnéaire qui s'appelle Amity. Et ils pensent... passer des vacances incroyables, sauf que c'est sans compter sur un énorme requin blanc qui commence à dévorer des gens. Donc il faut savoir que c'est une adaptation en premier lieu d'un roman de Peter Benchley et qui a d'ailleurs travaillé sur le scénario. Le film, il est connu notamment pour avoir surmonté beaucoup de problèmes techniques, notamment dont... des retards sur le calendrier du tournage, par exemple, et le requin mécanique qui a rendu l'âme bien trop tôt avant d'avoir filmé toutes les scènes. À tel point que tous ces problèmes techniques, tous ces retards, ça a fait que les acteurs et la plupart des gens qui étaient impliqués dans le film et qui travaillaient sur le projet n'y croyaient plus et s'impatientaient. Donc même le studio Universal se disait « Oula, ce film ne va jamais voir le jour ». Peut-être qu'on a mal fait de miser sur Steven Spielberg.
Et je pense qu'il y a des dépassements de financiers.
Exactement aussi, oui. Surtout, notamment par rapport au retard de calendrier, surtout. Et donc, en fait, ce qui est intéressant avec ces problèmes, notamment techniques, c'est que le réalisateur, il n'a pas baissé les bras, il a continué et il a fait de tous ces problèmes des forces, finalement, dans le film. Parce que, par exemple, le requin, on ne le voit pas tant que ça dans le film. Et donc, Steven Spielberg a fait le choix d'en faire plus un film à suspense qu'un film d'action avec des combats avec le requin, etc. Et par exemple, il a demandé à John Williams de créer le thème du requin. Et donc, dans le film, on ne voit pas tant le requin, à part vers la fin. C'est un petit spoil. Mais on a conscience de sa présence avec la musique. ce qui est d'autant plus effrayant, je trouve. Ce qui est intéressant avec ce film aussi, c'est que c'est un des premiers blockbusters parce que à sa sortie, ça a été, enfin, il y a eu une énorme campagne publicitaire qui a été faite. Et aussi, donc, ça a été un premier blockbuster qui a rendu le fait que les blockbusters sont devenus des genres cinématographiques à part entière.
Tu as eu peur quand tu l'as vu ?
Alors moi, quand j'étais enfant, j'étais terrifiée par ce requin. J'habitais à côté de la mer, donc j'avais pas forcément envie d'y aller, et à la plage non plus. Et c'est pour ça que je trouve que quand on est enfant, le film est assez impressionnant. Bon, maintenant, en grandissant, on se rend compte plutôt que l'antagoniste, c'est pas forcément le requin, mais il faut creuser plus loin. Notamment, par exemple, le personnage du maire qui décide de mettre en danger toute sa ville, tous les touristes, juste pour avoir de l'argent par rapport au tourisme, justement. Il dit non, mais on doit pas, on doit pas empêcher les gens de se baigner. Il y a quand même un requin qui traîne pas loin, il y a quand même des morts.
Ça amène des touristes.
Exactement, ça amène des touristes. Donc finalement, money is money, hein, comme on dit.
Donc, il y a plusieurs niveaux de lecture selon l'âge à laquelle on regarde le film.
Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant aussi avec ce film, c'est que donc, moi, je le considère comme un film d'horreur et qui est plutôt soft. Et donc, pour les personnes qui veulent s'essayer au genre et au domaine de l'horreur, je trouve que c'est un bon film pour y rentrer.
Merci, Laura. Anne, vous l'avez vu, ce film ?
Ben non. Je fais partie des rares personnes qui ne l'ont pas vu, sans doute.
Alors Anne, vous n'avez pas vu donc Les Dents de la Mer, mais vous avez vu un des plus anciens films, ou un des plus récents parlants, M le Maudit de Fritz Lang. Un choc là aussi quand vous l'avez vu, M le Maudit ?
Bon, je l'ai vu un certain nombre de fois, prise d'un amour non pas pour la beauté qui serait celle par exemple de Redford, dans Jeremiah Johnson, mais par le choc que provoque le personnage principal. Alors effectivement, on est en 1931, on est au tout début du cinéma parlant, c'est peut-être le premier film de Fritz Lang qui soit un parlant, et le jeu des personnages est encore marqué par les excès d'expressivité qu'on trouvait dans les films muets. Alors, le coup de génie de Fritz Lang, c'est d'avoir confié le rôle à Peter Lorre, avec son physique inoubliable, ses yeux exorbités et son air totalement affolé. Et il tient la première place tout au long du film. C'est un personnage qui est à la fois horrible, terrifiant et pathétique, parce qu'en fait c'est un psychopathe qui ne jouit pas du tout apparemment des crimes qu'il exécute, mais donc il est tout en contradiction. Voilà, et il était tout débutant alors. On peut se rappeler que 2 ans plus tard, en fait, il est obligé de s'exiler aux États-Unis comme un tas d'autres artistes allemands de l'époque. Alors Peter Lorre, qu'est-ce qu'il fait ? Il incarne un maniaque, tueur d'enfants, qui sévit en ville, on ne sait pas laquelle, depuis quelque temps. Tout le monde est mobilisé, la presse, la police, qui multiplie les rafles. Mais, chose inattendue, la pègre s'en mêle aussi, parce que toutes ces rafles, toutes ces manœuvres policières, la gênent pour mener à bien ses propres projets. Alors, il y a une scène, effectivement, qui est aussi très marquante. C'est qu'en montage alterné, on voit d'un côté les flics en grande réunion qui se demandent comment ils peuvent faire pour mettre la main sur le tueur. Alors, c'est dans une pièce totalement enfumée, au point qu'on ne les reconnaît pas vraiment. Et de l'autre côté, dans un autre plan, on voit la pègre avec le même excès de fumée. Donc, je trouve ça très drôle. Et en même temps, ça peut avoir un certain sens, surtout à l'époque de la montée du nazisme. Quoi. Voilà.
Après Anne, c'est au tour de Laura de vous présenter un film. Et on vous laisse deviner avec la bande-annonce.
Non mais souvent on a des problèmes, on les comprend pas vos textos.
Pas du tout, je suis pas...
Tenez, regardez si vous voulez.
Et pourquoi il a écrit ça ? L'autre jour vous m'avez envoyé merci Seb pour ton gentil massage. Tu vois, ça c'est ce putain de correcteur. En plus je trouve pas les ponctuations, je me retrouve avec des trucs débiles là, c'est ces ronds jaunes qui tirent la langue, avec des lunettes de soleil.
Les smileys ça ?
Ouais voilà, les ça là, oui.
T'es
que la surprise du marié est terminée. On envoie. D'ailleurs, garde un peu ton portable à la main. Comme ça, moi, je t'appelle et je te dis go.
Ou juste un texto, hein.
Non.
C'est trop risqué.
Oui, voilà, bien sûr. D'accord.
Vous aviez reçu mon texto.
Ah oui, mais je vous ai répondu, d'ailleurs.
Oui, vous m'avez écrit dès que vous arrivez, vous me demandez. Et puis, je viendrai vous lécher tout de suite.
Non. Oh, putain, quelle catastrophe, ça, c'est mon correcteur.
Ah, c'est ce que j'ai pensé, comme on se connaît pas bien.
Mais non, on se connaît pas bien.
Alors, sur Radio Alliance Plus, c'est donc la première émission, le Clap Cinéma d'Anne et Laura. Et nous allons enchaîner avec Laura, et comme elle aime un peu le suspense, nous vous avons fait deviner la bande-annonce que vous venez d'écouter. Je ne sais pas si vous avez deviné, mais c'était Le sens de la fête 2016, Eric Toledano et Olivier Nakache. Alors Laura, pourquoi avoir choisi Le sens de la fête ?
Alors parce que j'adore ce film, je l'ai découvert assez récemment et il est rentré facilement dans mes films préférés de tous les temps. Parce que déjà, premièrement, le casting est très diversifié. On a beaucoup d'acteurs et d'actrices françaises qui sont juste incroyables. Donc, pour faire simple, le film, quand même, il faut expliquer ce que c'est. Donc, c'est, comment on appelle ça ? Une compagnie d'événementiel, en fait, une boîte d'événementiel qui doit organiser un mariage assez, assez grand, assez conséquent.
Somptueux,
exactement. Et donc, on se retrouve à suivre cette boîte d'événementiel dans toute l'organisation du mariage jusqu'à la fête à la fin. Et donc, ça se passe pas forcément comme prévu. Donc, notamment dans ce casting, on a Jean-Pierre Bacri, qui est la figure centrale du film. Il porte un peu... c'est le personnage principal, il porte un peu les autres avec lui. Et il se place comme un peu, pas un antagoniste, mais c'est un peu le personnage qui va être en marge de tout ce qui se passe. Parce que ça va être le personnage qui va être le plus réaliste par rapport à la situation. Parce qu'en fait, autour de lui, c'est comme s'il y avait un cyclone et que lui était au milieu. Il y a beaucoup de chaos dans ce film. Ensuite, par exemple, on peut retrouver Jean-Paul Rouve, Gilles Lelouch, Benjamin Laverne, incroyable.
Votre chouchou.
Mon chouchou, exactement. Et ils incarnent toutes et tous des archétypes de personnages faciles à identifier, mais qui évoluent au fur et à mesure du film. Aussi, chose importante, les musiques ont été faites par Avishai Cohen, un compositeur de jazz. Donc ça ferait plaisir à Jacques Juste. je le mets comme ça.
Qui anime...
Jazz de cœur.
Jazz de cœur.
Et donc, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que le récit est choral. Donc, par exemple, les récits chorales, on retrouve par exemple dans des films comme Love Actually. Donc, c'est vraiment la multiplication de points de vue qui vont se croiser, donc dans le sens de la fête, pendant l'organisation, qui vont se causer du tort et finir par s'imbriquer au lieu... qui vont finir par se rencontrer, notamment quand il va y avoir la fête. Donc, pendant l'organisation, ils se croisent. Dans ce film, est très, très drôle. Il y a différents types d'humour qui sont utilisés. Il y a du comique de situation, du comique de répétition, du comique de mots. Même l'humour est parfois absurde, mais il est toujours très bien maîtrisé. Et c'est quelque chose que j'adore dans ce film. Ça fait aussi presque documentaire. C'est vraiment incroyable. J'en perds mes mots. parce que la fête, c'est... En fait, la fête, c'est aussi accepter qu'on ne peut pas tout prévoir, qu'il y a fatalement une dose d'imprévu et qu'il faut par conséquent improviser et s'adapter, un peu comme le personnage de Jean-Pierre Bacri, qui doit gérer avec ça. Et aussi, je tiens à rajouter que le rythme effréné contribue énormément à tout ça, donc avec, par rapport à l'humour. C'est un peu comme dans la série The Bear, qui parle de cuisine. C'est un peu le même type de rythme. La tension et la pression montent progressivement. On sait que ça va exploser à un moment, mais on ne sait pas quand. Tout cela malgré les efforts de Max, donc le personnage de Bacri, qui tente désespérément de sauver la fête et plus largement l'organisation du mariage dont il est responsable. Et c'est aussi un film très spectaculaire.
Mais est-ce qu'il y a, on parlait de niveau de lecture, est-ce que c'est pas très cynique, est-ce que c'est pas très critique, justement ?
C'est très critique, c'est très cynique.
Sous l'aspect drôle, il y a en fait beaucoup de critiques,
ah
beaucoup
oui,
de cynisme.
Complètement, c'est, en fait, il y a aussi un moment de bascule dans le film où on passe vraiment de situations complètement absurdes, ça fait rire, c'est drôle, Mais justement, avec le personnage de Bakri, on se rend compte qu'à un moment, c'est vraiment le point de rupture et que, en fait, c'est ok, c'est un film, c'est une fiction. Mais si ça arrivait dans la vraie vie, ça serait pas du tout drôle.
Oui.
C'est justement la personne qui est sous pression, qui doit gérer tout ça, qui doit gérer toutes ses équipes, et qui finalement, bah, ça finit par exploser.
Et c'est souvent le genre de rôle qu'a joué Bakri. Hein.
Oui.
Il aimait bien.
Il est très fort là-dedans.
Ça permet aussi de lui rendre hommage. Merci Laura d'avoir choisi ce film. Bien, merci à Anne et à Laura pour cette première émission avec une petite dose de stress, mais chaque mois ça s'améliorera et c'était déjà excellent. Merci à toutes les deux. Alors moi j'avais parlé un peu d'actualité, je ne vais pas vous parler de deux films, si je vais vous parler de deux films, mais à l'occasion de ma passion pour le théâtre et le cinéma, puisque j'ai eu l'occasion les semaines passées de satisfaire en fait cette double et même triple passion avec la musique, puisque j'ai vu, et j'en ai fait une émission Classe Cinéma, Denis Lavant, qui était venu pour Rencontre au Jardin, présenter le film de Léos Carax, Mauvais Sang, et également faire jouer La Grande Vie de Jean-Pierre Martinet. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le cinéma, c'est de pouvoir mêler vraiment le théâtre. Et Denis Lavant est à la fois un acteur de théâtre et de cinéma. Et ça me permet, bien sûr, même s'il avait présenté Mauvais Sang, de parler de Holy Motors, moi qui est un film qui m'avait vraiment subjugué en 2012. Déjà parce qu'il était assez extraordinaire, assez bizarre, hein, parce que c'est un film tout de même avec 9 rendez-vous. Le personnage d'Oscar est sollicité par une inconnue qui est jouée par Edith Scob, la magnifique Edith Scob, et qui l'emmène dans 9 rendez-vous où il se métamorphose à chaque fois avec cette scène absolument extraordinaire de la limousine. Et Holy Motors 2012, c'est le cinéma vraiment, même si Léos Carax, on peut ne pas aimer certains films, Les Amants du Pan Neuf, vous aviez parlé Laura de dépassement d'honoraires, enfin de finances, mais les Amants du Pan Neuf, c'était un gouffre financier. Et je vous parle à côté, puisque c'est la même chose, c'est cette même passion du théâtre du cinéma. J'ai vu les 2 documentaires de Werner Herzog au cinéma Le Sémaphore. C'était deux documentaires qui s'appelaient Les Ascensions, La Soufrière en 1976 et Garschenbrum, désolé pour l'accent, 1985, qui était la façon pour Reinhold Messner de monter, enfin de grimper, ascensionner de sommets de 8000 mètres dans l'Himalaya. Et ces films ont inspiré Bruno Gélin, le metteur en scène bien connu, et il vient de donner au Théâtre de Nîmes Sur le chemin des glaces, s'inspirant un petit peu, non pas des films de Werner Herzog, mais de cette quête de l'idéal, c'est aller au maximum de ses possibilités, que ce soit à côté d'un volcan éteint qui va peut-être exploser et qui en fait n'explosera pas, ou de grimper donc à 8000 mètres d'altitude sans oxygène. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment un metteur en scène utilise des films pour faire, en fait, pour créer quelque chose. Et j'ai choisi pour illustrer Werner Herzog, non pas les 2 documentaires qui sont en allemand, et j'ai hésité entre Aguirre, La colère de Dieu de 1972 et Fitzcarraldo de 1982. Les 2 se passent dans l'Amérique latine, qui était une obsession peut-être de Werner Herzog, malgré ses origines allemandes. Et on écoute la bande-annonce de Fitzcarraldo avec peu de paroles. Il y a peu de paroles chez Werner Herzog. C'est toujours la démesure, c'est toujours le côté exceptionnel. Et Fitzcarraldo, c'est cette quête sur le fleuve Amazon de Fitzcarraldo, joué par Claude Kinski, pour aller écouter le ténor Enrico Caruso au fin fond donc, de l'Amazone. C'est absolument prodigieux. Et je tiens à signaler que dans le film Fitzcarraldo, il y avait Claudia Cardinal qui vient de disparaître. Alors, je vais terminer cette première émission avec cette pièce de théâtre sur le chemin des glaces, qui est donc une création de Bruno Gélin, qui est jouée donc par Clément Bertani, mais qui est également très soutenue par une création musicale. Vous parliez, Laura, de la bande sonore, hein, c'est toujours très, très important. Et Guilhem Laugereau a fait, qui est sur scène, fait également une composition très lancinante, mais qui nous prend. Et ce tapis roulant, cet homme qui marche, il faut peut-être que je vous raconte un peu ce qu'a fait Werner Herzog, c'est-à-dire qu'il a parcouru 800 km à pied pour rejoindre Munich à Paris. En apprenant qu'une de ses amies était à l'agonie, il s'est dit « tant que je marcherai, elle ne mourra pas ». Et quand il est arrivé à Paris, après 800 km, elle était effectivement encore vivante. Elle est décédée 10 ans après. Et même chose, un peu que Kluczynski dans Fitzcarraldo ou Aguirre, la colère de Dieu, c'est cette folie, cette démesure. Bruno Gélin, quand il a parlé au Théâtre de Nîmes, a dit que ça avait un côté absurde. Pourquoi marcher 800 km comme cela? Et je termine en disant, je suis toujours fascinée par ces artistes, qu'ils soient réalisateurs ou qu'ils soient acteurs ou qu'ils soient, je ne sais pas quoi, artistes, circassiens, de cette création, de cette force de création que le commun des mortels n'est peut-être pas capable de, de produire. Donc merci à toutes les deux, Anne et Laura, pour cette première émission dont vous réfléchissez pour les 4 autres films dont vous parlerez.
Mais oui, certainement, merci Sylviane.
En novembre, en décembre, en janvier, régulièrement.
Et bien plus.
Et bon cinéma surtout.